Cette profession de foi, elle se termine de manière différente d'ailleurs, suivant qu'on dit le credo de Nicée de Constantinople, le grand, le long credo, ou le plus petit, pour gagner quelques secondes parfois, le symbole des apôtres. C'est le symbole des apôtres, c'est le texte le plus ancien, qui est une confession de foi baptismale qui remonte à la fin du 1er siècle. Donc à la fin du symbole des apôtres, on dit « Je crois en la vie éternelle ». Par contre, dans le symbole de Nicée-Constantinople, qui est le plus long, qui a été défini en l'an 325 et complété en l'an 381 pour dire à la fois la divinité du Christ et la divinité de l'Esprit Saint, on dit « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». Donc, il y a en fait un double dynamisme. Je crois, j'attends. Donc il y a deux vertus en fait qui sont à exercer dans ce domaine, la foi et l'espérance. Ces deux-là dont nous n'aurons plus besoin au ciel, comme le dit saint Paul. Nous n'aurons plus besoin de croire, nous le verrons. Nous n'aurons plus besoin de l'espérer puisque nous le posséderons. Vous imaginez ça? Le terme posséder a des côtés un peu négatifs, hein, soit d'une possession qui en général est plutôt diabolique, soit les possédants, vous savez, hein, on a depuis des siècles, on a des tribuns, quel que soit leur nom, qui. Bien. Cette vie éternelle. La vie éternelle. Le mot et l'adjectif unis reviennent 43 fois dans l'Évangile, pardon, dans le Nouveau Testament, et plus de la moitié chez saint Jean. C'est quoi la vie éternelle? Eh bien, c'est une récompense. Que dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est la question de qui? Du jeune homme riche, un des échecs du Christ. C'est un des moments les plus émouvants et peut-être les plus tristes de l'Évangile. Vous savez, ce jeune homme riche qui a tout bien fait comme il faut, qui a fait ça, toutes ses communions, qui a tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un homme honnête. Il y a quelque chose de beau. Et pourtant, c'est le même qui repart tout triste. Que dois-je faire de bon pour la vie éternelle? Vous voyez, oui, il y a une part de récompense, il y a une part de d'infit. En fait, il y a une cohérence entre aujourd'hui, notre aujourd'hui qui dure 24 heures, et l'aujourd'hui éternel de Dieu. Vous savez, cet aujourd'hui de la croix, vous savez, le crocheteur de la vie éternelle, le cambrioleur du ciel, comme je l'appelle, ce bon larron. Qui à la fois reconnaît ses crimes, ses fautes, et qui reconnaît qu'il mérite un châtiment déjà sur la terre, mais qui a à ce moment-là cette certitude qu'il vaut mieux que son péché, qu'il vaut mieux que ses crimes, et qui finit par ouvrir son cœur d'une manière un peu mystérieuse. Lui, il n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras inaugurer ton règne, et la réponse du Christ, qui ne relève pas de la promesse électorale, aujourd'hui, avec moi, tu seras en paradis. Donc, notre aujourd'hui, notre quotidien, nous prépare à l'aujourd'hui éternel de Dieu, et il y a une cohérence. Sinon, à quoi bon être bon? S'il n'y a pas de justice, nous avons un problème. Avec la justice et la miséricorde. Soit nous ne jurons que par la justice de Dieu, soit nous ne jurons que par sa miséricorde. Les deux, mon capitaine. Vous voyez, il y a cette image de la petite Thérèse à l'entrée de l'église, à droite. Il y avait une sœur au Carmel qui n'arrêtait pas de parler de la justice de Dieu. sœur Fébronie de la Sainte Enfance. Et la petite Thérèse qui disait, oh ma sœur, mais la miséricorde, c'est important. Puis un jour, petit mouvement d'humeur de Thérèse, elle dit à sœur Fébronie devant toutes les autres, vous en voulez de la justice de Dieu, ben vous en aurez. Quelques semaines plus tard, la sœur décède lors d'une épidémie d'influenza, cette épidémie qui emporte plusieurs sœurs. Et quelques semaines après, c'est Thérèse qui le raconte, hein. Elle fait un songe, elle voit Fébronie et qui souffre. Et il y a des flammes. Ça sent bon le purgatoire. Enfin, ça sent bon. Ça dépend pour qui, enfin, je ne sais pas. Ça sent le purgatoire. Eh bien, ça sent la vie éternelle, mais ça sent l'antichambre, ça sent le boudoir, ça sent l'infirmerie, vous voyez, du bon Dieu, comme disait le curé d'Ars, pour parler de la purgatoire. Et c'est un songe, certes, mais enfin bon, on n'imagine pas quand même Thérèse raconter une menterie, un petit mensonge. Une menterie, on aime bien dire ça dans le centre-ouest de la France. Oh, monsieur l'abbé, j'ai fait une menterie. Ben, c'est un petit mensonge, ouais. Et Thérèse, dans ce songe, voit cette sœur qui l'appelle comme on l'appelait toujours, ma petite sœur, c'était la plus jeune. Oh, ma petite sœur, vous aviez raison. Vous aviez raison. Si j'avais demandé la miséricorde au Seigneur, je serais déjà rentré au ciel directement. Et j'ai demandé sa justice. Alors Dieu me traite avec justice. Priez pour moi, faites célébrer des messes. Et le seul commentaire que Thérèse fait en marge de ce songe, elle dit simplement à ses sœurs, Dieu nous traite comme nous le lui demandons. Alors, frères et sœurs, nous allons compter sur la justice de Dieu, mais nous allons demander aussi sa miséricorde. Comme l'Esprit Saint l'a inspiré à l'auteur de la lettre de Saint Jacques, hein. Le jugement est fort miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde, mais la miséricorde se moque du jugement. Et là, on n'est pas dans le songe d'une carmélite du 19e siècle, on est dans la parole de Dieu. Donc oui, cette vie éternelle, c'est aujourd'hui, il dépend quelque part de notre aujourd'hui, d'aujourd'hui. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, dit Jésus à Marthe. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. La prière sacerdotale de Jésus, toujours chez Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, Jésus, dans son dialogue avec Nicodème. Donc vous voyez, cette vie éternelle à laquelle nous sommes destinés par un vouloir de Dieu, non pas par une de nos capacités, cette vie éternelle, elle est à la fois en cohérence avec notre aujourd'hui, avec notre agir, avec ce qu'il y a dans notre cœur et dans notre âme, et elle est aussi le fruit d'un désir de Dieu, d'une volonté de Dieu. L'éternité, c'est long, disait Woody Allen. C'est pas un théologien, c'est pas un père de l'Église. Hein. Woody Allen, je vous parle bien du grand cinéaste américain. Hein. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. On a du mal, ben oui, nous sommes immergés dans le temps, et en même temps, il y a en nous une aspiration au bonheur. Il y a plein de choses que nous n'avons pas choisies, frères et sœurs. La couleur de nos yeux, la forme de notre nez, notre identité sexuelle, faut pas le dire trop fort, mais enfin bon. Il y a plein de choses qu'on n'a pas choisies. Notre psychologie, 80% de ce que nous sommes psychologiquement, nous le tenons de nos deux parents et de nos quatre grands-parents. Ça laisse un espace pour la liberté, hein, ça laisse 20%. C'est déjà pas mal. Mais il y a plein de choses. Et il y a en nous des aspirations fondamentales. Aristote l'écrit 3 siècles avant Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose que Aristote n'a pas défini comme une inclination naturelle. C'est notre désir du bonheur. Il y a quelque chose qui nous réunit, plus encore que notre foi, dans notre humanité, ce désir de bonheur. Et là, nous touchons à l'éternité. Parce que dans les grands moments de bonheur de notre vie, on a tout su. Dans les grands moments de bonheur de notre vie, nous avons touché l'éternité. Je vous propose que nous fermions les yeux. Alors, je vous explique. On va fermer les yeux quelques instants et nous allons faire vivre en nous, faire résonner en nous un moment de bonheur inouï que nous avons vécu. Peut-être il y a quelques jours, j'en sais rien. Peut-être il y a quelques années. Peut-être le jour de votre mariage, le jour de la naissance de votre enfant. Je ne sais rien. C'est plus secret de votre... Alors, nous allons fermer les yeux quelques instants. Et nous allons tranquillement les rouvrir. Vous voyez, frères et sœurs, nous venons de faire remonter à notre mémoire, à toute notre sensibilité, notre psychologie, tout ce qui fait une partie de notre être, un moment où le ciel a touché la terre. Un moment, justement, où nous aurions voulu, où nous voudrions qu'il durera toujours. Comme Pierre au Tabor. Il veut que ce moment dure toujours. Donc il propose de planter sa tente. C'est très symbolique. Nous avons fait mémoire ensemble d'un moment de bonheur inouï où le temps était aboli. Eh bien, frères et sœurs, c'est un avant-goût d'éternité. Ça montre que Dieu a semé en nous. La seule chose dont nous ne soyons finalement pas capables, c'est l'éternité. Parce que tout en nous est fini. Parce que de toute manière, par définition, ce qui a un début a forcément une fin dans l'ordre naturel. Rien en nous n'est éternel dans notre corps, si ce n'est notre principe d'âme. Les philosophes l'avaient compris là aussi avant Jésus-Christ. Et pourtant, tout en nous sera appelé à l'éternité par une volonté de Dieu. Vous comprenez ? Cette vocation à la vie éternelle, elle est surnaturelle. Elle ne dépend que de l'initiative gratuite de Dieu. Elle ne dépend pas que du bon vouloir de Dieu. Elle dépend en fait de notre bon vouloir. En fait, on va être très clair. Nous allons tous ressusciter. Nous allons tous entrer dans la vie éternelle. Mais il y a deux manières de vivre l'éternité. Et là, on est, pour moi, dans le cœur de ce petit entretien, de cette petite conférence. C'est l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Celui que Mircea Eliade, historien des religions, considère comme un des textes les plus originaux, les plus fondamentaux de l'histoire de toutes les religions, qu'il qualifie d'ailleurs de texte unique. Le jour de la Saint-Martin, depuis 16 siècles bientôt, l'Église lit cet évangile. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. On le connaît tous. Et ce qui nous intéresse, mais ce qui peut nous concerner, enfin, ce qui nous intéresse vraiment, en fait, c'est la première partie de cet évangile. Vous savez, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif. Mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ? Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères. On est en 5 points là. C'est capital, frères et sœurs. Parce que c'est pour cela que le Christ est mort et ressuscité. Pour chacun d'entre nous. Le salut, il est offert à tout homme. Les bras du Christ sont fixés pour l'éternité dans cette position-là. Pas dans cette position-là de certains de nos Christes jansénistes. Nous, dans la forêt, dans la Loire, on est une région très marquée par le jansénisme. Que ce soit Saint-Jean Bonnefond, que ce soit avec ceux de la République, hein, dans le col du même nom, que ce soit autour de Montverdun, dans la plaine et tout, il y a eu plein de poches de ce rigorisme au XVIIe, au XVIIIe, et même après la Révolution. Et j'ai parfois vu, oui, des Christes, vous savez... Moi, je sais pas, mais avec ma rondeur, je passe pas, moi, avec un truc comme ça. Hein. Tout le monde passe pas, si on est un peu trop large. venez à moi. Vous, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. C'est ce qui va nous intéresser dans cette deuxième partie. Venez. S'il y a une dynamique, Dieu nous attire, Dieu presque nous séduit. Comme dans le livre d'Osée, où Dieu va au désert pour reséduire son épouse infidèle. C'est notre âme, c'est l'âme de tout homme. Venez à moi. Venez. Il nous attire, il nous désire. Il y a un désir de Dieu qui nous concerne. Comprenez ça, c'est fabuleux. Venez. Qui cela ? Les bénis de mon Père. Mais il n'y a pas plus bel attribut, il n'y a pas plus bel adjectif, il n'y a pas plus belle qualification. Nous sommes, frères et sœurs, ce sont les mots du Christ, nous sommes les bénis de son Père. On pourrait signer, ça paraîtra un petit peu ridicule, gnognotte, mais on pourrait mettre au bas de notre signature « béni du Père ». Vous vous rendez compte de ce titre ? Quand Dieu nous aime, il ne fait pas les choses à moitié. C'est ce qu'une Catherine de Gênes, qui a beaucoup vécu cette réalité du purgatoire, en vivant même les peines du purgatoire, hein, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Elle se convertit en 1473 et elle meurt en 1510. Elle a fait l'expérience à la fois de l'immense amour et de la pureté inouïe de l'amour de Dieu pour elle et pour chaque âme. Et elle fait l'expérience aussi bien du côté obscur de notre humanité. Ce que représente la douleur, la blessure, ce qu'elle appelle la rouille de l'âme, le péché. Et nous sommes les bénis du Père. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage. Ah, ça c'est important. Ah, quand, c'est drôle, à chaque fois que je parle d'héritage, écoute, il y a des oreilles qui se tendent, il y a des yeux qui se rouvrent, les sonotones ne sifflent plus. Enfin, ça souffle. Hein, c'est. Je dis parfois pour des célébrations d'obsèques, tout le monde va pas voir le curé ou l'équipe de funérailles. Hein. Mais tout le monde sera là le jour chez le notaire. Par contre, il manquera personne en général. Hein. Question d'héritage. Mais c'est comme son nom l'indique, l'héritage, c'est pas quelque chose qui nous est dû. C'est quelque chose qui a été souvent qui est le fruit du travail de nos parents, de nos grands-parents. Enfin. Voilà, l'héritage, c'est les mérites du Christ sur la croix, c'est cet amour infini. C'est pas sa souffrance qui nous sauve, c'est son amour. Et comme dit saint Alphonse de Ligurie, qui a aidé par ses écrits à assoupir un peu le curé d'Ars dans sa prédication comme dans ses absolutions, hein, il nous a plus aimé qu'il n'a souffert. Voyez cet héritage. Nous avons notre fierté, c'est la croix du Christ. Notre héritage, c'est la résurrection. Vous comprenez ? Nous allons recevoir un héritage. On y a peut-être un petit peu participé, mais enfin l'essentiel, c'est pas nous qui l'avons fait. Vous savez maintenant, je me rends compte que les gens sont de plus en plus susceptibles. Ça doit être mon cas aussi. Alors maintenant, vous savez, souvent une confession. Je dis, votre pénitence, si vous l'acceptez, parce que parfois, j'ai l'impression qu'on me trouve un peu trop gentil, un peu laxiste. Ben, si vous voulez que je vous donne une pénitence à genoux jusqu'à Jérusalem, allez-y. Mais de toute manière, quelles que soient nos pénitences, elle ne sera que pas grand-chose par rapport. Parce que c'est le Christ, recevez en héritage. Quoi donc ? Le royaume, eh bien on y est, la vie éternelle. Le royaume est par nous. Le Christ le dit. Nous le chantons au moment à certaines fêtes liturgiques. Vous savez, le royaume est par nous. Enfin, voilà, c'est à la fois Noël et Pâques. La vie éternelle est déjà commencée pour nous au jour de notre baptême. Vous vous rendez compte ? La gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Et ça va permettre de répondre et enfin comme l'eau chez la Samaritaine. Un seul qui boit de l'eau continuera à avoir soif, etc. Mais l'eau que je vous donnerai, vous n'aurez plus jamais soif. Le bonheur éternel, ce sera un bonheur qui nous comblera enfin complètement. Il n'y aura plus aucune frustration. Les petits bonheurs dont je vous ai parlé sont une préparation de cela. Vous comprenez ? Notre cœur sera comblé complètement. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Célèbre tropaire de l'abbaye de Tamiers, c'est du Saint-Augustin, mais c'est d'abord un psaume. Il n'y a finalement que l'immense amour de Dieu qui va pouvoir étancher notre soif de bonheur. Il n'y a que l'immense amour de Dieu qui va pouvoir répondre à notre amour. C'est quand même inouï. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Nous sommes faits pour le ciel. Nous ne sommes pas faits pour louper la marche. Il faut être clair. Nous sommes faits pour le ciel. On est fait pour le ciel, mais est-ce qu'on est toujours prêt ? Avant de passer à une autre petite partie qui s'appelle, mais ne le répétez pas, le purgatoire, je voudrais que nous comprenions ce que l'Église dit elle-même au moment de la Pâque. Ce passage, vous savez, vulgairement, il était en vie, il est mort. Comme disait M. de la Palice, hein, repris d'ailleurs par des pâtissiers de la ville éponyme, hein, un quart d'heure avant, il faisait encore en vie. Il parle du gâteau, naturellement, les pâtissiers. Il est vivant, il est mort. En fait, non. La réalité, pour nous chrétiens, et en fait la réalité qui ne sera pas que pour les chrétiens, c'est ce passage, non pas seulement de la vie à la mort, mais en fait de la vie d'aujourd'hui à la vie éternelle, comme disait Mgr Brincard, de la vie de ce jour à la vie de toujours, cette Pâque. Eh bien, il y a une prière que moi j'aime beaucoup, qu'on utilise vraiment très très peu. Pourquoi ? Parce que on est souvent plus là, on est souvent pas là quand partent nos défunts. Moi, je demande de grâce au Seigneur, c'est de pouvoir accompagner. J'ai accompagné tellement d'inconnus dans ma vie sacerdotale en 25 ans. Je demande de grâce. Je demande de pouvoir accompagner mes parents dans leur Pâques. Et je demande à pas être seul le jour de ma propre Pâque. Il y a, à la toute fin du rituel du sacrement des malades, il y a ce qu'on appelle la recommandation des mourants. Je vous en lis quelques extraits, c'est très très beau. Je ne l'ai pas dit souvent malheureusement, parce que je n'ai pas souvent été là, mais je disais aux gens, mais quand vous sentez qu'il ou elle va partir, votre père, votre mère, votre femme, peut-être votre fils ou votre fille. Et je voudrais terminer cette partie justement par cette prière. C'est pas la parole de Dieu, mais c'est la prière de l'Église et c'est extraordinaire. Quitte ce monde, âme chrétienne, au nom du Père Tout-Puissant qui t'a créé, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour toi, au nom du Saint-Esprit qui a été répandu en toi, prends ta place aujourd'hui dans la paix. Fixe ta demeure avec Dieu dans la Sainte Sion, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les anges et tous les saints. Retourne auprès de ton Créateur qui t'a formé de la poussière du sol. Qu'à l'heure où ton âme sortira de ton corps, Marie, les anges et tous les saints se hâtent à ta rencontre, que tu puisses voir ton Rédempteur face à face. Voyez, tout est dit par l'Église. Et nous allons vivre notre Pâque à travers le jugement particulier. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, citant d'ailleurs la deuxième lettre à Timothée, « La mort met fin à la vie de l'homme comme un temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. » Et donc il y a deux fêtes, on l'a dans la parabole du pauvre Lazare, on l'a dans la parole du Christ en croix au bon larron, il y a dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, affirmé à plusieurs reprises qu'il y a une rétribution immédiate après la mort en fonction des œuvres de chacun, en fonction de sa foi. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. L'Église, à travers un certain nombre de conciles œcuméniques, qui sont porteurs de l'expression de la foi de l'Église, à travers des conciles comme à Lyon, comme à Florence, au Moyen-Âge, à la concile de Trente, au XVIe siècle, et tout ça étant parfaitement assumé par l'Église d'aujourd'hui, eh bien, parle du jugement particulier et parle aussi de la possibilité d'une purification. Finalement, Saint Jean de la Croix, réformateur du Carmel au XVIe siècle, glosant d'ailleurs une des lettres de Saint Jean, l'évangéliste, dit tout en une phrase « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour ». Alors il y a cette vie éternelle, ce ciel, ce paradis pour lequel nous sommes faits, auquel nous sommes appelés depuis la création du monde. Il y a un vouloir de Dieu, il y a un désir de Dieu. Vivre au ciel, c'est être avec le Christ. Enfin, c'est la fin ultime de notre vie. C'est ce pourquoi nous travaillons chaque jour. Sans en avoir forcément conscience. Il suffit de relire la deuxième partie de la somme théologique de Thomas d'Aquin, où Thomas d'Aquin commence par le dessert en disant « Quelle est la fin ultime de l'homme ?» Ben, c'est le ciel, c'est la béatitude. Relisez les béatitudes, qui sont un texte absolument fondamental. Bienheureux, car ils verront Dieu. Bienheureux, car ils seront appelés fils de Dieu. En fait, il y a tout dans les béatitudes. Il y a le menu du ciel. Il y a la liste, les Italiens disaient « elenco », il y a l'elenco de notre vie éternelle. Ils seront appelés fils de Dieu, ils seront consolés, ils seront... Comme à la maison. Saint Ambroise, qui est contemporain de Saint Martin, au IVe siècle, nous dit « la vie, c'est d'être avec le Christ, là où est le Christ, là est la vie, là est le royaume. » Voilà. Mais il peut arriver... Et il paraît que c'est fréquent, j'en sais rien. Moi, c'est pas moi qui décide. Hein. Que celui ou celle qui vit sa Pâque ne soit pas tout à fait en état de... Voilà. Eh bien, il y a cette purification. Et là, on retrouve la justice. Vous vous souvenez tous, grande majorité d'entre vous, à la fin des années 70-80, on n'allait plus aux vêpres, hein. Pour être bien clair, hein. On était tous plus ou moins sur Antenne 2, comme on disait autrefois, hein. Les émissions de Jacques Martin avec son émission fétiche, l'école des fans. Moi, je voulais aller ça, j'avais 10 ans à peu près et tout. Il y avait quelque chose qui me paraissait profondément injuste. Vous souvenez le principe, vous avez 5-6 enfants qui chantent devant leur idole. Pour moi qui disais ça, hein, le chanteur préféré. Enfin, il y en avait, c'était absolument extraordinaire. Puis il y en avait d'autres. Ils exécutaient le morceau de chant, hein, dans tous les sens du terme. Alors bon, chacun se donnait des notes, bon, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Mais ce qui me choquait, souvenez-vous, frères et sœurs, passé l'âge de raison, on disait 7 ans autrefois, enfin, les mauvais souvenirs de notre enfance à cette époque-là sont liés très souvent à des sentiments, peut-être pas réels, mais d'injustice. On se souvient très bien des premières injustices dont nous avons été victimes. Hein. On se souvient pas des autres en général. Hein. C'est le syndrome Calimero, vous savez, c'est ma génération aussi. Hein. Hein, c'est le Calimero, c'est trop injuste. Eh bien, je trouvais foncièrement injuste que tous aient exactement les mêmes cadeaux. Alors, vous allez me dire, en spirituel et en théologien que vous êtes tous, ah, mais mon père, la parabole des vignerons de la dernière heure, oh, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, puisque il y en a un qui a tout mérité sur la croix. Il y en a qu'un qui nous donne en fait sa vie éternelle. Que la récompense soit infinie, exactement la même pour tous, au contraire, moi, ça me... Mais qu'entre les deux, il n'y ait rien, sinon à quoi bon être bon, frères et sœurs, s'il n'y a pas de justice? Et la miséricorde implique la justice, et elle l'implore quelque part. Revenez au bon larron. Pour nous, après ce que nous avons fait, c'est juste, nous n'avons que ce que nous méritons. Oui, il y a cette promesse de Dieu. Oui, ça montre bien qu'un acte d'amour inouï couvre une multitude de nos fautes. Hein. Ça nous laisse toutes nos chances. Hein. Mais oui, heureusement qu'il y a. Et je reviens à Catherine de Gênes. Elle est d'une famille célèbre. Sa famille a donné deux papes à l'Église. C'est peut-être votre cas parmi vous, il y en a peut-être... Bon. Mais elle vit dans ce port florissant qui était Gênes. Et on voit bien, ben, quand on a besoin d'enlever la rouille, alors sur du bois, c'est moins fréquent, mais sur un métal, sur quelque chose, ben, pour enlever la rouille, on passe au feu. Et Catherine de Gênes a cette image d'une purification par le feu, un feu d'amour, un feu pour enlever la rouille de l'âme qui est notre péché. Alors, on va être bien clair, frères et sœurs. Cet état du purgatoire n'est pas au cœur central de notre vie. Et ce n'est pas non plus au cœur central de notre foi. Vous savez, dans le catéchisme de l'Église catholique, 1992, je pense qu'aucun d'entre nous a commencé par maintenant. On ne l'a pas lu. Ben, on ne l'a pas lu intégralement. C'est pas un roman. C'est pas... Bon. Vous savez combien il y a de numéros au total? Il y a 2865 numéros. Combien y en a-t-il qui parlent du purgatoire? Alors, on pourrait faire comme Abraham, vous savez, à propos de Sodome. Hein. Ah, s'il y a 50 justes, mais pour 40, mais pour 30, vous savez... C'est extraordinaire, cette prière d'intercession typiquement orientale, hein, on sait comme on marchande. C'est tellement beau finalement. Sauf qu'Abraham, il s'est arrêté trop tôt, quoi. Il s'est arrêté à 10, mais il n'y en avait pas 10. Et ben là, il n'y en a pas 10, il n'y en a que 4. Jacques Le Goff, c'est le grand historien qui a écrit une somme il y a 40 ans, qui s'appelle « La naissance du purgatoire », rappelle cette très belle phrase du XIIIe siècle. Alors souvent, les mauvais esprits ou les imbéciles, ce qui peut être, on peut cumuler les deux, disent bah, « Le purgatoire, c'est une invention de théologiens, en gros des curés, au XIIIe siècle. Bah, » C'est pas vrai. Non, ouais. Et bien pourtant, c'est au XIIIe siècle, de fait, qu'on a pris conscience, même à travers l'enseignement magistériel de l'Église, on a pris conscience de cette réalité de justice et de miséricorde en vue de la vie éternelle. Et donc Jacques Le Goff rappelle que cette formule du XIIIe siècle, qui tient en quatre mots, le purgatoire, c'est l'espoir. Bon, ça rime, c'est pas très riche comme rime, mais... Et on parle d'espérance, ben oui. Ça fait frémir souvent. Ça fait partie des mots coubelles, des mots toxiques qui sont marqués d'un sceau d'infamie, comme le mot dogme, comme le mot excommunication, comme le mot inquisition. Tout ça, d'ailleurs, ça relève d'un imaginaire religieux pas très reluisant. Hein. Quand on parle de purge, hein, quand on dit oh, « celui-là, c'est une purge hein. », enfin, vous voyez, tout est... Mais souvenez-vous de la sixième béatitude. Il faut être pur ou purifié pour voir Dieu. Donc non, ce purgatoire n'est pas une obsession de l'Église. Dans le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, qui est un des documents les plus fondamentaux de ce concile Vatican II, 1962-1965, dans Lumen Gentium, dans le Concile Vatican II, au numéro 49, je lis comme ça, « Les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage. D'autres ayant achevé leur vie, se purifie encore. D'autres, enfin, sont dans la gloire, contemplant dans la pleine lumière tel qu'il est, le Dieu en trois personnes. » Voilà, Concile Vatican II. Regardez, le Christ meurt. Alors, suivant les historiens, en l'an 30, en l'an 33, on ne va pas rentrer dans cette polémique, dans cette problématique. Ça fait partie des choses, hein, comme on dit souvent, on le saura au ciel, mais ça n'aura plus aucune importance. Eh bien, pile 200 ans avant, dans la guerre que la tribu des Maccabées livre pour cette liberté religieuse et pour que les Juifs puissent retrouver une liberté religieuse et politique dans leur État, c'est raconté dans l'Ancien Testament, dans ce deuxième des Maccabées. Vous avez une bataille qui est sanglante et qui est une défaite. Dans le judaïsme de l'époque de Jésus, le grand péché, c'est l'idolâtrie. Le grand péché, c'est de quitter le monothéisme, de revenir au polythéisme, c'est de quitter le Dieu unique. C'est dans les grands reproches que Dieu fait à son peuple, y compris dans les psaumes, y compris parfois même dans les impropères du Vendredi Saint. Hein. « Que t'ai-je fait, ô mon peuple ?» C'est un des moments les plus poignants de la liturgie du Vendredi Saint. Eh bien, le plus grand péché, c'est l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'on trouve sur les corps de certains soldats morts? On trouve des amulettes, on trouve des sortes de gris-gris. Ça, c'est le grand péché. Et qu'est-ce que font les Juifs à ce moment-là? Ils prient pour leurs défunts, ils prient, ils demandent le pardon, ils ont cette prière d'intercession pour leurs défunts. Ils demandent à Dieu de pardonner à leurs défunts qui seront morts dans cet état, dans un état de péché, réellement. Et en même temps, ils font tout de suite une souscription pour qu'un grand sacrifice d'intercession soit fait au temple de Jérusalem. Il y avait plusieurs types de sacrifices. Mais là, c'est un sacrifice pour les péchés qui est fait. Vous vous rendez compte? Donc, frères et sœurs, le purgatoire, sa première racine biblique et une racine fondamentale, se trouve dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, 2 siècles avant la mort et la résurrection de Jésus. Bien sûr, nos frères orientaux n'ont pas le même regard sur une peine post-mort là-dessus. Passé. Ça fait partie des choses qui, de fait, nous séparent un petit peu de nos frères orientaux. C'est ce qui nous sépare encore plus à propos des messes des défunts de nos frères réformés. En allemand, le mot purgatoire s'appelle le Fegfeuer, le feu purifiant. L'Église nous demande et demande souvent, le peu des fois où elle en parle, qu'on soit très prudent sur les images qu'on va employer. On a eu un romantisme un peu excessif dans ces questions-là. Souvenons-nous à la fois d'un feu d'amour qui purifie, mais qui purifie d'une rouille, qui nous permettent tout simplement d'être... Il y a des taches sur la robe de la noce. Vous vous souvenez dans l'Évangile? La robe des noces. Il y en a un qui n'avait pas la tenue. Hop, dehors. Il y a quand même un certain nombre de récits là-dessus. Et là, le purgatoire, cette purification... C'est l'œuvre même de la miséricorde de Dieu. Quand Mbappé est blessé, ou d'autres footballeurs, enfin, Ils sont à l'infirmerie. Ils sont pas en état de sur le terrain. Eh ben, le curé d'Ars ne dit pas autrement quand il dit que le purgatoire, c'est l'infirmerie du bon Dieu. Vous rendez compte? Jusqu'où va cette miséricorde? Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter de se faire peur. Vous comprenez? Oui, il y a eu des abus. Oui, il y a eu des. Alors, ça sonne pas bien. En allemand, ça sonne mieux. Oui, il y a eu ce fameux Dominique Tetzel. Hein? Alors, je vous fais pas en allemand, je vous fais en français. Sitôt que sonne votre bol, du feu brûlant, l'âme s'envole. C'est pas glorieux. Ce qui est pas glorieux, c'est ceux qui y ont cru aussi, en parenthèse. Hein? On n'est pas très intelligent de croire à ce genre de prédication. Comme quoi, vous voyez, il y a du zèle qui peut tomber à côté. Vous voyez, ça n'est pas le cœur de notre foi. Ça n'est finalement que provisoire. Le purgatoire, c'est l'amour miséricordieux qui nous prépare à la rencontre de l'amour. Même le père Congar en a parlé. Le père Congar nous dit, le purgatoire, c'est une purification. C'est une sorte d'allègement progressif de ce qu'il y a de trop dans notre bagage terrestre pour trouver Dieu. Je viens de lire un article sur les sentiers de Saint-Jacques qui parle du camino, vous savez, depuis le puits. Et en fait, dans les deux, trois premières étapes, donc en gros entre le puits et Saugues, hein, il y a ce qu'on appelle le délestage. Alors soit les gens revendent ce qu'ils ont en trop, soit ils le donnent. Enfin, ça commence à être une petite industrie. On est obligé de se... Je vous redis cette phrase du père Congar. Le purgatoire, c'est une purification. C'est une sorte d'allègement progressif de ce qu'il y a de trop dans notre bagage terrestre pour retrouver Dieu. Ce n'est pas une troisième voie entre le paradis et l'enfer. C'est le temps du désir de plus en plus intense de correspondre à Dieu. L'âme se laisse attirer. Venez les bénis de mon Père. Quand je vous parlais de ce désir de Dieu, eh bien, pour ceux qui ont besoin de cette purification, oui, on se laisse attirer, on se laisse conquérir par Dieu, jusqu'à se libérer de toute résistance à son égard. C'est le seuil, c'est la porte d'entrée de la communion divine. Finalement, c'est fabuleux. Dieu a même prévu cela. Vous vous rendez compte? Souvenez-vous de cette image de la rouille, cette image de... Et cette réalité de Sainte Catherine de Gênes qui a fait une telle expérience de la grandeur, de la pureté, de l'amour de Dieu, que ben, par conséquent, oui, le péché est une morsure. C'est le cas des plus grands saints. Certains se sont étonnés des peines du curé d'Ars à la fin de sa vie. En fait, c'est quelque chose dans la vie spirituelle qui est quelque chose d'assez logique. Plus on avance dans la vie chrétienne, plus on avance dans la vie spirituelle, sans forcément être des mystiques ou des... Eh bien, objectivement, on pêche de moins en moins. Mais en fait, en même temps, à la manière de Catherine de Gênes, plus on vit cet amour unique de Dieu, de cet amour inouï, plus on prend conscience de la morsure du péché. Il ne faut pas en être surpris, il ne faut pas en avoir peur. Parce qu'objectivement, on est de moins en moins pécheur, mais, et c'est une belle réalité, on prend de plus en plus conscience de la douleur, de la morsure du péché. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de cela. Oui, un feu qui brûle, un feu provisoire, ben, l'or qui a besoin d'être séparé de ses impuretés, l'œil qui s'habitue à la lumière. Vous savez, quand il y a une lumière trop forte, enfin, l'infirmerie du bon Dieu, la binoce, ce sont que des images qui sont finalement assez limitées. Allons jusqu'au bout, frères et sœurs, de Matthieu 25. Il y a cette possibilité qui n'est pas un vouloir de Dieu. Là, en quatre parties. Allez-vous-en, loin de moi. Ça, c'est terrible. Le non-amour, c'est pas le non-amour de Dieu, hein. Catherine de Gênes dit que l'âme d'elle-même, quand elle se sent pas apte à recevoir tout l'amour de Dieu, l'âme d'elle-même va au purgatoire. Enfin, voilà, elle vient comme se réfugier. Vous savez, comme quand on est dans une situation un peu délicate. Là, c'est différent. Allez-vous-en loin de moi. Nous faisons parfois l'expérience de la monstruosité de l'iniquité, de ce qu'on appelle le mystère d'iniquité. Quand nous ne sommes pas aimés, il y a peut-être parmi nous des hommes et des femmes qui ont fait cette expérience-là parfois dans leur enfance, d'un refus d'amour de leur père, de leur mère, etc. Enfin, et c'est des choses qui sont des choses qui nous marquent au fer rouge, qui sont une empreinte en creux dans toute notre vie. Et en fait, c'est, vous savez, c'est comme deux aimants. Vous savez, deux aimants, plus, ben, ça s'attire pas, ça se repousse. C'est pas que Dieu ne veuille pas de nous, c'est nous qui ne voulons pas de lui. Et de manière libre, et de manière définitive. Vous vous rendez compte que c'est inutile de prier pour les damnés parce qu'ils ne veulent pas de notre prière. On n'est pas là pour donner des noms. L'Église ne s'est jamais reconnue le droit, le pouvoir, la capacité, la faculté, y compris pour Judas, de dire un tel est en enfer. Elle le reconnaît pour les saints. Il y avait eu une supplique, il y avait eu quelques évêques au moment du Concile Vatican II, justement, qui voulaient déclarer que la damnation de Judas est d'une manière parfaitement unanime. La commission des théologies, non, l'Église ne se reconnaît pas, et ne s'est jamais reconnu ce droit-là. Nous n'avons pas à dire qui quoi. Méfions-nous, frères et sœurs, des ouvrages, des opuscules, y compris parfois signés par des prêtres ou même des prélats, qui vous disent « Non, on n'a pas besoin de ça. » Mais nous sommes, Dieu respecte notre liberté. Même si le Christ s'est laissé, regardez la grâce de la croix. Ces deux hommes, ils souffrent pareillement que le Christ. Il y a des souffrances fécondes et il y a des souffrances stériles. Et l'autre, ben l'autre, on n'en sait rien. C'était déjà le cas pour la parabole du fils prodigue, hein. Vous savez, la parabole du fils prodigue, mais c'est qu'une parabole, hein. Attention, hein. Le fils aîné, il va rentrer dans la maison ou il ne va pas rentrer? Petite devinette, dans la parabole du fils prodigue, qui est le plus mécontent? Ben, c'est le veau gras. Fin de la parenthèse. Là, on n'est pas dans la parabole. Il y en a un qui a ouvert son cœur. Souviens-toi de moi. Et l'autre, ben, on ne sait pas. Et j'ai envie de vous dire, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas que ça ne nous intéresse pas. Dieu ne viendra pas cambrioler les portes de notre liberté. Y a un chapelain de Montlignon qui a une très très belle description, vous savez, de la scène dans la chapelle Sixtine. Vous savez, hein, y a pas mal de nus, on s'en fiche en fait. Et pour ceux qui avaient une Bible de Jérusalem, vous savez, il y a Dieu qui vient, puis il y a l'homme, et puis Vous savez, il y a ces deux doigts qui se. Et le chaplain de mon religion dit, vous voyez, cet espace entre Dieu et l'homme, c'est l'espace de notre liberté. Et Dieu n'ira pas plus loin. C'est à l'homme d'avancer son droit. Cet espace correspond à notre liberté. C'est pas qu'elle soit, mais Dieu n'ira pas plus loin. Dieu ne viendra pas s'emparer de nous. Comprenez ce que je veux dire. Allez-vous-en loin de moi. Maudit. Les bénis de mon Père. Maudit. Mais on devrait frémir quand même un peu de ça. On en rit maintenant pour le nier, parce qu'on en a peut-être trop parlé. Allez-vous-en loin de moi, maudit, dans le feu éternel. Dans le feu éternel. Là où l'Église ne suit pas Origène, et parfois d'autres pères de l'Église, c'est dans cette... où à la fin, Dieu dira, écoutez, allez, c'est bon, vous avez... Non, parce que Dieu tient compte de notre liberté jusqu'au bout. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas un échec de Dieu. Ça pourrait le paraître, mais Dieu respecte la liberté de toute âme. Dans le feu éternel. Quatrième élément, créé pour le démon et ses anges. Nous ne sommes pas faits pour ça. Voilà. Le mystère du choix des anges nous dépasse. Les anges qui ne sont pas dans le temps ont fait un choix éternel. Nous sommes... Finalement, ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez? Ça ne nous intéresse pas. Ça n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Mais il y a quand même cette possibilité. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif? Et nous t'avons toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est tout. Dieu ne nous contraint pas à l'amour. Vous comprenez? Et en même temps, la conversion là, ne peut être le fruit de notre liberté. La peur ne convertit pas. On entend parfois les gens dire « Ah ben s'il y avait une bonne guerre, monsieur l'abbé, les églises seraient pleines. » Oui, elles seraient pleines, ou même plus, enfin, pour se viser autre. La peur ne convertit pas, la contrainte ne convertit pas. Et j'en reviens à la petite Thérèse. Hein. Finalement, il n'y a que l'amour. Pourquoi cette petite voix, cette voix d'enfance, a touché tant de cœurs? C'est parce que justement, elle est cohérente aux besoins de l'âme humaine. Vous imaginez quand même que Édith Piaf, à l'âge de 8 ans environ, a été emmenée en pèlerinage à Lisieux parce qu'elle risquait de perdre la vue. Et qui est-ce qui l'a emmenée? C'est pas les dames patronesses d'une, je donnerai pas de nom, d'une paroisse huppée de Paris. C'est d'autres dames qui l'ont emmené. Des dames, vous savez, qui... Hein? Vous imaginez le défilé? Des filles de joie avec cette gamine? Et cette gamine a été guérie. C'est pas la peur qui convertit, c'est l'amour. Ça vaut Bernadette Soubirous, hein? Qui a accepté de l'accompagner la première fois chez cet ours, qui est sûrement un saint, ce Dominique Peramal, ce Roc, ce curé de Lourdes, qui n'a même pas laissé assez d'argent au moment de sa mort pour se payer un linceul, parce qu'il avait tout donné aux pauvres et aux familles de Lourdes. Qui est-ce qui est allé accompagner la gamine? Les cousines, les tantes, qui, comme on disait, en patois de Lourdes, avaient pété à vêpres. Elles avaient fait Pâques avant les rameaux, enfin, ouais, voilà. C'était pas les meilleures ambassadrices auprès de monsieur le curé. Eh bien, les dames de la rue Saint-Denis n'étaient peut-être pas les meilleures ambassadrices pour demander une grâce, mais elles l'ont obtenue. Et elles l'ont pas obtenue chez des gens doctes qui nous parlent de la justice et de l'enfer. Elles sont allées chez cette petite sœur qui est morte, dont la vie a été considérée inutile comme même par certaines de ses sœurs. Cette gamine rentrée à 15 ans au Carmel, qui est morte 9 ans plus tard, qui nous a appris quelque chose de l'amour de Dieu, non pas au-delà des évangiles, mais qui nous a rendu l'évangile finalement plus cohérent, plus simple. La petite voix, celle de l'enfance. Allez, frères et sœurs, souvenons-nous de l'essentiel. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Amen.